Et avant d'écouter Michel, je voulais nous lire un très beau message de Jacques. Bonsoir Jacques, s'il nous écoute, et merci pour souvent les messages très élaborés, très beaux que vous nous envoyez. Donc c'est un message pour Christian. Jacques dit « Christian, vos douleurs successives sont autant de difficultés accumulées que vous affrontez seul. Vous devriez changer d'interlocuteur afin de vous sentir en confiance et enfin écouté. Vous avez une grande intelligence émotive et vous méritez un bonheur sans ombre et en bonne compagnie dans l'avenir. Tous mes souhaits. » Et nous écoutons maintenant Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Alors Michel, de quoi souhaitez-vous nous parler ?
Eh bien, je vous ai laissé un message vendredi, oui. Après le passage du jeune homme dont malheureusement je ne me souviens pas du prénom.
Tristan, peut-être.
Oui, qui éprouvait des difficultés avec sa maman.
Oui, c'était Tristan.
Voilà. Et qu'il avait l'impression d'être pris comme un objet.
Oui.
Par sa maman.
Exact, exact.
Voilà, c'est ça. Et ça m'a beaucoup émue dans la mesure où moi aussi, j'ai eu une maman qui m'a traitée comme un objet.
Oui.
Et j'ai voulu réagir d'abord. Bon, moi je ne suis pas aussi jeune que lui, j'ai 60 ans.
Mmh.
Et je souffre encore de ça aujourd'hui. Et je voudrais que lui ne souffre pas jusqu'à l'âge de 60 ans, parce que j'ai perdu beaucoup de temps à me rendre compte de la manipulation dont je faisais l'objet.
Oui.
Par cette mère qui, quand j'étais petite, s'est très bien occupée de moi.
Oui. De vous, c'est-à-dire vous étiez fille unique ?
Non, j'ai une sœur plus jeune,
oui.
2 ans et demi plus jeune que moi.
Oui.
Elle s'occupait très bien de nous, elle nous soignait bien, nous ne manquions de rien, sauf peut-être de la présence d'un papa qui était là, mais qui était un père absent. On ne réfléchissait pas à cet âge-là. Le papa travaille,
oui.
Et la maman s'occupe des enfants. J'ai appris bien plus tard que, en fait, c'était ma mère qui ne voulait pas que mon père s'occupe de nous.
Ah bon ?
Voilà. Voilà, j'ai appris ça alors qu'il allait bientôt mourir.
Ils étaient en conflit, vos parents ? Il y avait des difficultés dans le couple ?
Tous les jours. Il y avait des bagarres à la télévision. Je vais vous dire, mon premier souvenir d'enfant, je regardais une émission destinée pour aux enfants, donc. Et mon père est rentré, il s'est déchaussé, et il a lancé une de ses chaussures dans la télévision, sur l'écran de télévision. Voilà.
Donc c'est un souvenir d'un père en colère.
Voilà, un père en colère. Et donc, il y avait tout le temps de la colère à la maison, tout le temps des cris.
D'autant que c'est un geste très violent, la chaussure dans la télévision, enfin, ça a dû vous effrayer.
Oui,
beaucoup.
Oui, c'est un geste très violent. Et pour que je me le rappelle encore aujourd'hui, j'ai des petits chiens qui sont en train de se chamailler.
Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, Michel, dans votre famille ?
Ce qui s'est passé, c'est que grandissant, ma mère a commencé à changer un peu d'attitude, d'abord avec moi, parce que je suis l'aînée.
Elle Vous aviez vers quel âge quand son attitude a changé ?
Je devais avoir 8 ans, 8-9
ans.
8 ans,
d'accord.
8 ans, oui, mm-hmm. 8-9 ans. C'était par rapport à l'école où j'avais de bons résultats scolaires.
Oui.
Et ma petite sœur avait de bons résultats aussi, mais elle n'était pas aussi, aussi douée. à l'enseignement qu'on lui donnait, peut-être que c'est parce qu'on lui elle n'avait pas le type d'enseignement qui lui convenait. Il ne s'agit pas de juger de l'intelligence de quelqu'un ici. Et c'était tout le temps moi qui devais l'aider. Parce que ma mère n'était pas à la hauteur pour l'aider, elle n'ayant pas fait d'études.
Oui.
Et ce qui s'est passé, c'est que tout en grandissant, elle a fait cette différence entre ma sœur et moi, en nous montant l'une contre l'autre pour mieux régner, en créant une espèce de zizanie, mais aussi en m'assimilant moi plus à mon père qui était le méchant,
oui,
et ma sœur à elle qui était la plus gentille. Voilà. Parce que quand on est intelligent, je n'aime pas trop utiliser ce mot-là,
oui, mais je
veux dire, quand on obtient de bonnes notes, on est quelqu'un de mental et donc on a le cœur sec. Voilà. Elle me disait tout le temps ça, que j'avais le cœur sec.
Ça, c'est ce qu'elle reprochait à son mari, c'est-à-dire que ça faisait partie des problèmes de leur couple.
Voilà.
Votre mère considérait que votre père n'était pas assez sentimental, affectueux et...
Voilà. Il avait le cœur sec et donc moi aussi, puisque j'obtenais de bonnes notes à l'école.
C'est ce que vous pensiez de votre père enfant? Vous pensiez vous aussi qu'il avait le cœur sec?
Je ne savais pas s'il avait le cœur sec. Je ne savais que ce que ma mère voulait bien me dire.
Oui.
Et elle me disait que, enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Mon père était trop. C'est vrai que mon père buvait beaucoup d'alcool. Mais est-ce qu'il buvait parce que c'était une... comment dire ?
Parce qu'il était malheureux ?
Parce qu'il était malheureux, voilà. Ou est-ce qu'il buvait parce que, bon, c'était une addiction, je n'en sais rien.
Oui, peut-être les deux d'ailleurs. Et votre père, lui, n'a jamais essayé de transgresser l'interdiction de sa femme de... d'investir ses filles, il n'a jamais essayé de s'approcher de vous?
Non, jamais.
Et vous, de lui?
Non, jamais. On n'osait pas. Si on s'approchait de notre père, on avait directement des mots méchants de la part de notre mère.
Vous étiez considérée comme déloyale?
Voilà, déloyale, et tu vois, tu ressembles à ton papa, tu es méchante...
Oh là, voilà. Et même pendant les vacances, parce que parfois les vacances d'été, ça amoindrit un peu les barrières, c'était pareil pendant l'été?
Eh bien, pendant les vacances d'été, nous allions au bord de la mer, et au bord de la mer, mon papa ne venait pas. Où il passait, il ne se déshabillait même pas, il passait et puis il repartait. Voilà.
Vos Jamais. Parents étaient quasiment séparés, au fond?
Oui, et d'ailleurs, ils ont... Enfin, moi, je ne sais pas vers quel âge ils ont pris cette décision, mais ils ont fait chambre à part assez rapidement. Voilà.
Donc, il n'y avait pas d'amour dans ce couple pour... À vos yeux d'enfant, il n'y avait pas d'amour. Oui.
Et puis, bon, les années avançant, moi, je me suis aussi mariée. J'ai eu deux fils. Et là, ma mère s'en est pris à mon mari.
Alors, simplement une petite précision, Michel. Entre ce tournant qu'il y a eu dans votre France vers vos 8 ans et ensuite jusqu'à la fin de votre présence à la maison, l'attitude de votre mère a persisté en vous mettant dans le camp des cœurs secs et des mauvais. C'était l'ambiance.
Elle disait tout le temps que j'étais méchante.
Oui.
Mais elle était fière. Elle était fière. Elle se montrait en tout cas fière de moi de par mes résultats. Mmh. Elle s'assimilait un peu à moi parce qu'elle n'avait pas eu la chance d'avoir fait des études.
Oui.
Ils ont été placés très tôt par ses propres parents dans un ménage, enfin bon, comme ça se faisait à cette époque-là.
Oui.
Et puis j'ai perdu le fil.
Oui, en fait, vous étiez en train de m'expliquer que vous vous étiez mariée et c'est moi qui vous avais interrompu pour vous demander si entre vos 8 ans et votre départ de la maison, votre mère n'avait jamais changé de ligne par rapport à vous, si vous étiez toujours le cœur sec, la méchante.
Oui, toujours.
D'accord,
toujours.
D'accord.
C'est allé jusqu'à un jour, un repas de famille. Elle avait acheté 2 tableaux qui, ma foi, étaient beaux tous les deux. C'était des motifs floraux et il y en avait un qui était plutôt rouge et l'autre dans les tons pastels.
Mmh.
Et alors elle était toute souriante. Elle dit voilà, j'ai acheté 2 tableaux. Il y en a un qui représente Michel, donc moi, et l'autre, je ne vais pas citer le nom de ma sœur. Alors, celui de Michel, c'est celui qui est tout rouge, qui est toujours en colère, à qui on ne peut pas parler, à qui on ne peut rien dire. Voilà.
C'était vraiment binaire comme monde.
Voilà. Mm. Ça m'a beaucoup fait souffrir.
Bien sûr.
Longtemps.
Bien sûr.
Longtemps souffrir. À tel point que pour ne pas être méchante, je disais oui à tout le monde pour tout.
Oui.
Voilà.
Oui,
c'est encore un problème aujourd'hui. J'ai du mal à refuser quelque chose et je vais parfois me mettre dans des situations où je dis oui alors que j'ai envie de dire non. Voilà.
Oui, cette étiquette de méchante, ça vous colle encore à la peau.
Ça me colle encore à la peau.
Oui. Donc vous disiez qu'ensuite, donc vous êtes mariée, vous avez eu 2 fils et vous disiez que votre mère avait une attitude problématique envers votre mari.
Voilà, donc c'était pas quelqu'un de bien pour moi, il avait plein de défauts, il était violent, me disait-elle. Elle avait vu mon mari frapper violemment mon fils aîné, enfin bon, des choses pareilles. Toujours est-il que moi, bon, c'est vrai que le couple n'était pas non plus, je vais dire, parfait, mais j'ai décidé de me séparer.
Oui.
De mon mari, qui lui me faisait toujours passer pour une moins que rien. C'est très bizarre.
Donc il y avait une forme de violence morale de la part de votre
mari.
Voilà,
également oui. une violence morale. Et puis, quand nous avons été séparés, ma mère était contente. Et elle m'a demandé pour venir habiter chez moi.
Ah.
Pour quitter mon père.
Quelle demande surprenante.
Voilà. Et j'ai refusé.
Ça, c'était il y a combien de temps à peu près?
C'était en 98.
98, oui.
98.
Un peu plus de 20 ans.
Voilà. Et à partir du moment où j'ai dit non, la vie est devenue infernale. La vie est devenue infernale parce que elle m'a pourri la vie. Ça a commencé par une convocation à la gendarmerie où j'ai appris là qu'elle avait déposé plainte contre moi parce que je m'étais introduite chez elle alors qu'elle finalement avait quand même déménagé, elle avait quand même quitté mon père.
Oui.
J'ignorais où elle habitait, que je m'étais introduite chez elle pour lui voler des chèques et faire des faux en écriture. Donc j'ai dû me soumettre à une expertise en écriture.
Oui.
Je suis sortie de là, j'étais comme un zombie.
Bah oui, vous étiez. Voilà. Bah oui, vous étiez.
Ensuite, elle a fait engager un détective privé pour essayer de prouver que je ne soignais pas bien mes enfants, pour essayer d'en avoir la garde.
Pour en avoir la garde?
Oui.
Oui. Donc carrément un acte extrêmement hostile envers vous.
Voilà. Puis c'est devenu de plus en plus sombre. Je disais tout à l'heure à votre assistante Sarah, je ne sais pas si je peux.
Oui, si vous pouvez, bien sûr.
Je peux parler de ça. Un jour, elle me téléphone et elle me dit au téléphone, tu sais que ton père a couché avec sa propre mère. Je dis, écoute, je ne veux pas entendre des choses pareilles. Oui, et toi, tu as été sa maîtresse. Donc, j'étais la maîtresse de mon père depuis l'âge de 13 ans. Une maîtresse consentante.
Là, ce qu'on voit, Michel, c'est qu'à partir du moment où votre mère s'est séparée de votre père, on voit qu'il y a un point de rupture et qu'elle a basculé dans la pathologie.
Voilà. Parce que moi, j'en ai parlé à mon médecin traitant, qui m'a dit, mais écoutez, je pense que votre maman a un problème. Elle a carrément cité le nom de schizophrénie. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas spécialiste.
Mais je dirais que ça ressemble à un délire paranoïaque, ce que vous dites là.
Voilà, un délire paranoïaque. Oui. Voilà. Et ma sœur et moi, on a essayé une seule fois de lui en parler, elle a dit que c'était un coup monté, forcément.
Trait clinique qui caractérise le délire psychotique, donc schizophrène ou paranoïaque, c'est la certitude. Ce qui caractérise un délire, c'est que le sujet qui délire est dans la certitude absolue. Donc il n'y a pas moyen de l'amener à critiquer son propre délire ou à espérer une prise de conscience. Donc il est logique que votre mère, dès lors qu'elle semblait avoir basculé dans la pathologie, et se trouve dans une position de certitude absolue. Et chaque fois que vous lui adressiez un élément de la réalité, elle le reconfigurait dans son délire.
Voilà, exactement. C'est exactement ça.
Mais oui. Et votre mère a reçu des soins en psychiatrie ?
Ah non, parce que chaque fois que le médecin traitant mettait le doigt dessus, elle reprenait son dossier médical et elle allait voir un autre médecin.
C'est ça, donc en fait elle s'organisait pour ne jamais être confrontée, pour ne jamais être remise en question, parce que la remise en question était impossible.
Mmh.
Là, il y a quelque chose de lourdement pathologique dans le tableau qu'offre votre mère. Déjà, il y avait, vous savez, le côté pathologique, ça s'organise en deux temps. On a la structure de la pathologie, donc la structure de la paranoïa par exemple, et ça se repère un certain nombre de signes. Et la façon dont votre mère se comportait, c'est-à-dire l'autre ennemi, c'était votre père ennemi, puis vous ennemi, puis votre mari ennemi, c'est assez caractéristique, mais ça restait sur un mode violent, odieux, mais pas délirant. Et on voit qu'en fait, votre mère était probablement appuyée psychiquement sur son couple, même si elle le détestait, ça lui servait de détayage d'une certaine façon, ou d'équilibre, de compensation, comme on dit. Mmh. Et dès lors que votre père est parti ou qu'elle l'a quitté, quelque chose a décompensé, comme on dit.
Mmh.
Et là, elle a basculé dans une autre. C'était pas juste la structure de la paranoïa, c'est qu'elle est entrée dans le délire paranoïaque.
Oui, c'était un vrai délire.
Ah oui. Je vais vous interrompre un petit instant. On va continuer notre échange, Michel. Mais nous allons marquer une courte pause, le temps des informations. Et nous continuons notre échange. Donc surtout, vous ne quittez pas. Nous nous retrouvons dans un instant. Et pour ceux qui nous écoutent, le numéro de téléphone, c'est le 09 69 39 10 11 pour témoigner. Et nous retrouvons Michel. Vous êtes toujours là, Michel ?
Oui, bien
voilà.
Sûr.
Si vous permettez, je vais faire un résumé de notre échange pour ceux qui nous rejoindraient maintenant. Donc, Michel, vous avez appelé pour nous parler d'un problème de relation très dur avec votre mère, Donc vous nous avez expliqué que votre mère a pris soin de vous dans votre, et de votre sœur dans votre petite enfance et que les choses ont commencé à être difficiles vers vos 8 ans quand votre mère a fait deux camps entre vous et votre sœur. Votre sœur qui était le prolongement d'elle et puis vous qui étiez le reflet de votre père avec qui elle ne s'entendait pas. Et donc de 8 ans jusqu'à la fin de votre vie à la maison, vous avez été celle qui avait le cœur sec, celle qui était la méchante, et ça a duré, ça dure encore d'ailleurs. Ensuite, vous vous êtes mariée, elle s'en est prise à votre mari, qu'elle a critiqué beaucoup, et après votre séparation, puisque vous vous êtes séparés, votre mère a conçu le projet un peu fou, il faut bien le dire, de s'installer chez vous pour elle-même se séparer de son mari.
Voilà,
voilà. C'est ça. Vous avez refusé et elle s'est déchaînée.
Oui, elle s'est déchaînée.
Oui.
Bon, je vous parlais de l'appel téléphonique où elle a dit que j'étais la maîtresse de mon père depuis l'âge de 13 ans et que mes enfants étaient en danger parce que j'allais probablement répéter la même chose avec eux. Voilà.
Et là, on voit les thèmes de délire, d'ailleurs. Donc, on parlait de paranoïa, en tout cas, d'un délire psychotique, probablement. On ne peut jamais être sûr, on ne peut pas te faire de diagnostic à distance. Mais là, c'est tellement typique. On voit que dans ces délires-là, il y a toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Donc, il y a les thèmes de complot, au sens où vous ourdissez un complot contre elle, vous êtes introduite chez elle, vous l'avez volée, ça, c'est des thèmes typiquement paranoïaques. Et puis, il y a souvent des thèmes sexuels dans ces délires-là. Où,
oui.
Voilà, donc votre père lui-même avait connu l'inceste, vous avec votre père. Là, donc, quand on connaît ces traits, c'est très caractéristique de la pathologie. C'est très sexuel. Oui. Donc là, ça signe évidemment le délire. Et alors, c'est extrêmement douloureux à entendre, mais là, à ce niveau-là de délire, votre mère, me semble-t-il, a basculé dans la maladie mentale. Et j'espère que vous arrivez à vous protéger de ce qu'elle dit, parce que là, on est loin, loin de l'arrimage à la réalité et encore plus loin d'un dialogue possible avec elle.
En fait, j'ai quitté. Je suis belge d'origine.
Oui.
J'ai quitté la Belgique et j'habite en France.
Oui.
Parce que voilà, c'était plus. Enfin bon, ce n'est pas parce qu'on s'en va que les problèmes s'en vont comme ça. Mon papa est décédé et malheureusement, en fait, elle était persuadée qu'elle n'a jamais accepté le divorce, elle n'a jamais voulu divorcer de mon père. Et parce qu'elle était persuadée, vivant dans le régime de la communauté de biens, elle était persuadée de pouvoir récupérer la maison et l'argent que mon père avait gagné. Sauf que mon père, on a quand même décidé autrement au bout d'un moment, et il a fait un testament au nom de dont ma sœur et moi nous étions les bénéficiaires.
Oui.
Voilà. Alors. La haine, là, n'a plus connu de limite. Et ça fait 5 ans maintenant que mon père est décédé et le problème n'est toujours pas réglé.
Alors là, on a un autre élément clinique caractéristique dans la paranoïa, c'est les questions d'argent. Donc il y a les thèmes du complot, il y a les thèmes du sexe et les questions de l'argent. On en veut à mon argent, on veut me soutirer mon argent, on veut me priver de l'argent auquel j'ai droit. C'est un classique aussi.
Donc je n'arrive pas, premièrement, à faire le deuil de mon papa.
Alors justement, Michel, il me semble que vous avez évoqué quelque chose au passage tout à l'heure. Vous semblez dire que avant la mort de votre papa, il y a des choses qui ont pu se dire et des choses que vous avez pu apprendre. Je crois que vous parliez du fait que vous avez appris que votre mère, elle, tenait votre père à distance. C'est ça ?
Oui. là, on va rentrer dans l'émotionnel. Mmh.
Ça va, Michel ? Vous vous sentez de... Vous voulez qu'on laisse cette question de côté pour l'instant ?
Non, non, ça va aller. Ça va aller. Je vais le dire. Donc mon papa est tombé gravement malade. Il a fait plusieurs AVC.
Oui.
Elle l'a maltraité.
Ah bon ?
Elle l'a maltraité en venant régulièrement encore à la maison. Lui, il était fou d'elle et bon, il aurait fait n'importe quoi pour qu'elle revienne à la maison. Mais non, elle l'a maltraité. Et puis, quand elle s'est déchaînée contre moi, si vous voulez, elle en a parlé à toute la famille. Donc toute la famille était contre moi. J'étais la méchante, vraiment la grande méchante là.
Personne ne s'est aperçu des excès pathologiques de votre mère.
À part ma sœur,
oui.
qui elle-même doutait, Elle m'a laissé le bénéfice du doute. Ce dont je la remercie. Mmh. Et voilà, pour toujours, elle est là dans mon cœur à côté de moi. Et puis progressivement, ma mère s'est attaquée à d'autres personnes parce que comme moi, je ne répondais plus. Elle n'avait plus de chair à mordre directement. Donc elle s'en est pris au mari de ma sœur, puis à ma sœur, puis elle à sa propre sœur. Enfin bon, finalement, toute la famille s'est bien rendue compte que elle était malade. Elle était complètement. Comme on dit en Belgique, elle n'avait pas toutes ses frites dans le même sachet. Mmh. Voilà. Et c'est quand mon père s'est retrouvé malade qu'il a commencé à se confier à moi.
Oui.
Et j'ai vu à ce moment-là tout ce que j'avais perdu.
Oui.
On ne s'était jamais pris dans les bras l'un de l'autre.
Oui.
Jamais.
Vous avez pu le faire à ce moment-là ?
Oui, je l'ai fait, mais il perdait la mémoire. Il y a plusieurs AVC, il était très...
Très affaibli.
Il était très atteint.
Oui.
Voilà.
Vous savez, même quand on perd des facultés comme la mémoire, l'émotionnel reste intact. Vous avez dû vous en rendre compte auprès de votre père. Que tout ce qui procède des émotions, ça passe par d'autres circuits.
Mmh.
Est-ce que vous avez pu voir qu'il pouvait recevoir cette communication-là de votre part, celle des émotions ?
Oui, oui, son sourire.
Mais oui.
On se touchait beaucoup, alors qu'avant, jamais on se touchait. Jamais, mmh. Jamais.
Mais oui.
Donc les derniers mois, les dernières semaines, on se rapprochait de plus en plus. Voilà.
Vous savez, Michel, je vais dire quelque chose. Je fais simplement une hypothèse, mais qui va peut-être vous choquer, mais par rapport à vos regrets, finalement, c'est quand votre père a eu ses AVC, c'est-à-dire que la pensée rationnelle n'a plus été possible, qu'a pu se libérer chez lui quelque chose d'émotionnel. Au fond, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que peut-être qu'avant, ça n'était pas possible de vivre ça avec lui. Parce que durant toute votre enfance, au fond, même si votre mère faisait obstacle, votre père était là. Si jamais il en avait eu la possibilité psychique, et de ma part, c'est certainement pas un jugement, parce que chacun fait avec son histoire et c'est possible à un moment donné. Mais peut-être que pendant toute cette période, jusqu'à son AVC, il n'avait pas la possibilité psychique d'exprimer ses sentiments pour des raisons qui tiennent peut-être à sa propre histoire ou voilà, c'est peut-être des raisons profondes, complexes. Mais...
Oui, il avait des problèmes aussi avec sa propre mère, qui préférait son cadet, là qui préférait son cadet, donc il a beaucoup souffert aussi. Je veux dire qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas. Je crois qu'il n'a pas été éduqué au geste.
Oui.
Au geste tendre.
Ou peut-être qu'il a dû se protéger. En tout cas, il me semblerait dommage que vous preniez à votre charge tous ces regrets en disant tout ce que j'ai perdu. Peut-être que vous avez raison, mais peut-être que vous n'avez pas perdu au sens où ça n'était pas possible dans ces conditions-là. Et que justement, c'est peut-être le fait de... que l'AVC court-circuitait la pensée rationnelle, dont toutes les défenses rationnelles qu'il mettait aussi, c'est peut-être ça qui a rendu possible l'accès à ses émotions.
Ça me fait du bien.
Oui. En tout cas, cliniquement, ça serait cohérent, vous voyez ?
Oui. Et aujourd'hui, quoi que je fasse, je rate mes entreprises. Je n'arrive pas à... Et je crois que c'est dû à ça. Et j'ai des douleurs. Des examens ont été faits. Et ce sont des douleurs dans l'abdomen. Et je me demande si ce n'était pas à cause de ça. Et comment je peux faire pour me débarrasser de ça.
Alors, quand vous dites que vous pensez c'est ça, est-ce que vous pensez que c'est ça, c'est vos regrets côté père, ce que vous disiez tout à l'heure, tout ce que j'ai perdu, ou est-ce que vous pensez que c'est le fait que vous ne puissiez pas vous adapter ou vous faire à cette situation côté mère? Comment vous voyez les choses?
C'est un peu des deux.
C'est un peu des deux.
Moi, la seule chose, maintenant, chaque fois que je la vois, parce que je suis obligée de me rendre à l'étude pour discuter de cette fameuse succession qui n'en finit pas, elle me fait des grimaces, enfin bon, mais vraiment, elle se comporte comme un enfant, c'est terrible. Elle est allée voir des voyants, des gens qui font de la magie noire, enfin bon, qui font de la magie noire, dit-elle, bon, il faut remettre les choses à leur place.
Je pense que c'est une expression de sa haine à elle, ce qu'elle dit là.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et tant que le problème ne sera pas réglé, J'ai peur de continuer à souffrir physiquement. Je souffre dans mon corps de ce qui se passe.
Vous savez, je crois que il y a deux choses, il me semble, que vous puissiez faire pour vous-même. La première, c'est de recevoir pleinement ce qu'a été le cadeau d'une rencontre possible avec votre père avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'au fond, la rencontre s'est produite entre vous et lui avant sa disparition.
Oui.
Donc au fond, vous avez connu l'amour d'un père. Ça fait partie de votre vie.
J'ai eu de la chance.
Vous avez eu de la chance et tous les deux, vous l'avez voulu, puisque ça s'est produit. Ensuite, c'est le mystère des choses. Votre père peut être libéré de la pensée rationnelle. Vous voyez comment je le dis, même si l'AVC, c'est évidemment une tragédie, mais... a pu investir cette zone-là de son être. Vous étiez prête à l'accueillir, parce qu'après tout, après toutes ces années, vous auriez pu ne pas vous rendre disponible pour ça. Donc c'est une chance, mais vous l'avez voulu tous les deux. Et ça, vous n'avez pas manqué la rencontre. Elle s'est produite et vous l'avez vécue.
On a pu se serrer dans les bras.
Mais oui. Et ça, Michel, ça fait partie de votre être, c'est ineffaçable, c'est une telle force. Peut-être que vous avez du mal à le ressentir pour l'instant parce que c'est parasité par autre chose, mais c'est une force que rien ne pourra vous enlever, cette rencontre réussie avec un père.
Oui.
Et c'était déjà là à titre de potentiel. Ça, c'est un des trésors de votre vie intérieure. C'est une très grande solidité. Vous verrez, à un moment donné, vous allez le sentir. J'en suis sûre, c'est que là, pour l'instant, il y a des interférences. Et l'autre chose aussi que vous puissiez faire pour vous protéger, vous ne pourrez pas changer votre mère. Elle a basculé dans la maladie mentale. Elle n'a pas l'air du tout décidée à se soigner parce que c'est le monde entier qui est méchant et c'est pas elle qui a un problème. Donc il y a peu de chances que ça change, sauf à ce qu'il y ait un épisode tellement problématique ou hors la loi que le circuit psychiatrique se mettrait en marche. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de chance pour que ça change. Je crois que si vous arrivez à faire un deuil de votre mère, de son vivant, en disant que là, elle n'est pas là. Enfin, le sujet n'est pas là quand elle est dans la maladie mentale à ce point. Donc, il n'y a rien que vous puissiez prendre de bon dans le fait de continuer le lien. À part le strict minimum nécessaire quand vous ne pouvez pas éviter d'être ensemble pour une démarche administrative. Mais pour le reste, je crois vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution pour vous que de couper radicalement le lien.
Elle ne changera pas.
Non. Alors, on pourrait dire, vous savez, en matière d'humain, il y a toujours un possible, un potentiel. Pour qu'elle change, il faudrait une conjonction de phénomènes qui fasse qu'il se passe quelque chose de suffisamment grave pour qu'elle soit obligée d'être soignée dans un premier temps contre son gré. Par exemple, qu'elle fasse quelque chose hors la loi et que là, ce soit la psychiatrie qui s'en charge. Qu'elle soit soignée et qu'ensuite elle consente à continuer à se soigner en se rendant compte que grâce aux médicaments qu'on lui a donnés, elle a pas de délire et qu'elle est mieux comme ça. Vous voyez, il faudrait tout cet enchaînement de choses assez improbable là, actuellement, pour qu'un changement se produise. Mais spontanément, il n'y a aucune chance. Parce que vous savez, quand le délire se déclenche, c'est comme si une rivière sortait de son lit et ça n'y rentre pas spontanément, ça n'existe pas.
Oui.
Vous voyez ?
Enfin, pour revenir à Tristan, loin de moi la pensée que sa maman souffre de la même pathologie que la mienne. Mais je crois que pour lui, c'est important qu'il vive.
Oui.
Qu'il vive et qu'il ne s'arrête pas à ce qu'on peut lui dire, à ce que sa mère peut lui dire.
Oui, qu'il ne consente pas au ravage, au fond.
Voilà, c'est ça. Mais et oui. que ça n'aille pas plus loin. Et parce que, bon, on s'enfonce dans un trou dont on n'arrive plus à sortir à un moment donné.
Oui. Vous pouvez en sortir, Michel, vraiment. Si vous pouvez vous appuyer intérieurement sur cette présence de votre père en vous et que vous prenez acte du fait qu'il n'y a rien à faire du côté de votre mère, ça ne vous appartient pas. Peut-être que si vous associez ces deux ressources, vraiment, vous pouvez aller beaucoup mieux.
Oui.
Donc c'est ce courage-là de prendre les plus grandes distances. Parfois, il n'y a pas d'autre choix pour pouvoir continuer à vivre.
Oui.
Et donc Tristan était effectivement dans l'intention de vivre sa propre vie. Et je pense que c'est plus radicalement vrai encore pour vous, étant donné que votre mère est avancée dans la pathologie.
Ah oui, ça c'est... Mais je ne comprends pas comment... des personnes comme ça, parce qu'elle fait du mal autour d'elle. Ce n'est pas que moi au début, ça a été moi. Mais bon, elle fait du mal autour d'elle et je n'arrive pas... Je ne comprends pas comment on ne peut pas arrêter des personnes qui nuisent comme ça, qui sont...
Il y a un moment donné, il y a la loi qui peut les arrêter quand vraiment... ça sort de certaines limites. Si elle représente un danger pour elle-même ou pour les autres, là, il y a la limite de la loi. Il y a une procédure qui existe, c'est l'hospitalisation d'office, donc contre le consentement. Mais en dehors de ça, effectivement, il n'y a rien que vous puissiez faire.
Mmh.
Et je crois qu'en prendre acte, ça peut vous permettre de prendre de la distance sans culpabilité, sans être accroché à un espoir. Vous voyez ?
Ah oui, mais je suis contente d'avoir quitté ma maison en Belgique et d'être venue m'installer plus loin. Voilà, et puis de vous écouter tous les soirs.
Ah, mais j'en suis heureuse, Michel. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous redonner de vos nouvelles si vous le souhaitez.
Bien sûr.
Voilà, vraiment, je ne peux que vous souhaiter beaucoup de courage de prendre les mesures bonnes pour vous, de vous appuyer sur ce qu'il y a de précieux en vous maintenant et de prendre toute la distance nécessaire pour vous aussi pouvoir vivre.
Oui, en tout cas, je vous remercie infiniment.
Avec plaisir, Michel. Prenez soin de vous.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.